Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonjour, bienvenue sur France Bleu Pays Basque, 100% rugby jusqu'à 19h. Le compte à rebours a débuté pour l'Aviron Bayonne. Il ne reste plus que 4 matchs pour se sauver dans ce top 14. Si pour l'instant Oyo occupe la place de lanterne rouge et Montpellier celle de barragiste, Bayonne, Lyon et Clermont ne sont pas encore sauvés non plus, hein, loin de là. Alors, quelles sont les forces en présence dans chacune de ces équipes pour terminer la saison? On verra cela dans un instant. On fera un petit crochet également, tiens, par l'association de l'Aviron, puisque Manesh Mézin sera avec nous dans le studio de France Bleu Pays Basque. Au menu également, les Coupes d'Europe, Challenge Cup, Champions Cup, avec plus que 2 représentants tricolores, Clermont pour la Challenge, Toulouse pour la Champions. Enfin, le crochet par Cap-Breton, qui malgré une finale perdue, obtient sa montée en Fédéral 3.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby. Sur France Bleu Pays Basque, avec David Talek. Ah,
presque.
Il reviendra.
T'as oublié qu'on aura une exclue, à savoir le prochain club de Roger Aguerre, ce soir.
Voilà.
Ça commence bien.
Bon, David Talek qui reviendra dès lundi, hein, c'est promis, il sera là, il rentrera de vacances, en frais, tout frais et en forme. Yann Blanchard, salut Yann.
Salut Julien, salut tout le monde.
Et Roger Aguerre, effectivement, qui est là, salut Roger.
Bonjour.
Pour l'instant, de l'ASB en tout cas.
Tout à fait.
Avec nous, comme chaque jeudi. Yann, il y a des infos.
La fin de saison, donc on attend tous, tous les auditeurs attendent de savoir.
Il n'y a que toi qui
attends. Oui, c'est vrai.
Pourquoi il te tarde de savoir, toi. T'es impatient de savoir.
Vous savez qu'il ne me dit rien en plus, hein. Ça, c'est incroyable, ça. Et donc, on sait que Benoît Caballero a signé arbitre à Mouguer, ça c'est fait. Mais on attend de savoir.
Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire.
On attend de savoir où Roger Aguerre va atterrir.
Bon, en tout cas.
On va peut-être demander à Manesh Mézin, après, bah oui, si jamais c'est pas à l'Aviron.
Non, on ne sait pas pour l'instant. Il y a des bruits de couloir, mais on dira rien.
Bon, ça reste à Bayonne, quoi.
Ça reste dans le couloir.
Bon, en tout cas, l'Aviron bayonné, il te reste 4 matchs, hein, après une petite semaine de repos, le compte à rebours va être relancé, la dernière ligne droite, 4 matchs pour te sauver, mais c'est vrai qu'on avait commencé à en parler un petit peu aussi mardi, t'as encore les cartes en main quelque part quand même, quand on regarde le classement, tout n'est pas encore totalement foutu non plus, Yann.
Ah non, c'est loin d'être foutu, loin de là. Je rigolais parce que mardi, quand j'étais à l'entraînement, il y avait tous les pieds mouillés en train de faire les calculs de combien de points il fallait pour maintenir.
C'est pas trop, en fait. Hein.
Ouais, on sait pas trop, mais on peut imaginer qu'avec 2 victoires à domicile, les 2 derniers matchs à domicile, ça passera. Parce qu'il y a un petit matelas quand même sur Montpellier, notamment qu'en cas d'égalité, ça sera Bayonne qui sera devant Montpellier. Donc ça aura peut-être son importance. Mais pour moi, ça ne l'aura pas si jamais Bayonne fait le boulot à domicile.
Pourquoi en cas d'égalité?
Parce qu'au point de terrain, Bayonne est devant Montpellier.
Ok. Ah oui, il y a eu
5 à domicile, okay. Et on avait pris le point de bonus défensif, okay, là-bas. Donc ils seront devant et ça peut avoir son importance. On parle beaucoup de Montpellier, mais Lyon n'est pas sorti d'affaire non plus, Clermont non plus. Donc voilà, il y a ce match du côté du Racing pour la reprise. Moi je trouve que pour le rugby c'est pas une bonne nouvelle, mais moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle de jouer à Auxerre et pas dans leur salle où ils ont leur repère, où ils savent jouer exactement avec cette particularité de la Arena, MM Arena, bon, je sais plus, le stade du Racing, là.
Ouais, la Arena, ouais.
L'espèce de salle de spectacle. Paris La Défense Arena, ah, oui. Merci Stéphane Garcia. Merci quand Stéphane il faut la précision, on a besoin des journalistes et il est là. Donc il y a ce match-là et après il y aura la réception de Perpignan. Alors attention, ce ne sera pas un cadeau non plus, vu la forme de Perpignan en ce moment et ils vont aller se rechercher la 6e place. Il y aura un déplacement à Oyo et d'ici là, Oyo, je pense, n'aura pas grand-chose à jouer. Alors ce sera la dernière à domicile. Donc voilà, mais bon, si tu veux te maintenir au bout d'un moment, il va falloir prendre des points contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et la réception de Castres lors de la dernière journée, qui là aussi, logiquement, n'aura plus grand-chose à jouer non plus. Donc, moi, je considère que c'est un calendrier plutôt favorable pour Bayonne. Donc non, rien n'est perdu.
Après, de la... Oyo, c'est vrai qu'il est loin derrière, mais voilà, on va se faire plaisir à la maison. Quand tu vois que Castres est allé perdre à Oyo 22-19 aussi le week-end dernier, c'est pas forcément un cadeau non plus, hein, d'aller jouer à Oyo. Alors...
Dans un contexte de match particulier, puisque ouais, ce qui a permis à Oyo de faire la bascule, c'est que Castres a joué à 13, il y a eu deux cartons rouges. Il gagne à la dernière minute sur une pénalité de Miotti, me semble. Donc voilà. Non, après, on est obligé de toute façon de... Alors c'est marrant que tu parles des pieds mouillés, les calendriers, mais ils ont raison. Oui. Parce qu'on est obligé de comparer les calendriers des uns et des autres. Oui. Aujourd'hui, la logique, c'est que l'Aviron est à la lutte avec Montpellier sur cette place de barragiste. Et c'est une évidence que le calendrier de l'Aviron... Et sur le papier, et je dis bien sur le papier, davantage favorable à celui de Montpellier qui va rencontrer par contre des équipes où il y aura de l'enjeu.
Quand tu regardes Montpellier, ils reçoivent Castres pour le prochain match. Ils vont à Castres pour le prochain match. Ils reçoivent Toulouse en suivant. Derrière, ils reçoivent Lyon dans ce duel des mal classés. Et ensuite Clermont, c'est-à-dire que Montpellier, Lyon et Clermont, les trois vont s'affronter aussi sur les deux dernières journées, quoi.
La donnée aussi, c'est voir ce que va faire Toulouse ce week-end, parce que Montpellier recevra Toulouse une semaine avant la finale de la Coupe d'Europe. Donc, c'est toujours pareil, c'est pas un cadeau non plus, même l'équipe B de Toulouse ou
B'. Ça, dans la lutte pour le maintien, c'est un équilibre quand on sait quel a été le calendrier de Toulouse pour jouer l'Aviron.
C'était pas du tout une critique. Je répète que c'est pas un cadeau, il faut la gagner l'équipe.
Voilà.
Parce qu'on se souvient quand même que Bayonne avait ouvert le championnat avec une victoire contre Toulouse, tout le monde disait que c'était un Toulouse amoindri. Bon, mais jusqu'à la Coupe du Monde, en fait, ils ont fait un sans faute après. Donc il fallait les battre quand même. Voilà, et oui, Montpellier après reçoit Lyon, donc là aussi match à haut risque. Donc ça veut dire que tu vas remettre une des deux équipes aussi dans le fond. Et il ira à Clermont. Attention qu'ils ne jouent pas la lutte pour le maintien aussi.
C'est ça, ouais,
lors de ces dernières journées.
Le maintien peut se jouer là, en fait, entre Clermont et Montpellier. Le maintien peut aussi se jouer.
Exactement, Julien. Je suis excité parce que tu es au maintien.
Ouais.
Après, c'est pour l'Aviron, c'est surtout, et pour toutes les équipes qui jouent le maintien, c'est la dimension mentale et athlétique, j'ai envie de dire. Et sur ces deux points, moi, j'ai trouvé l'Aviron fatigué samedi. On n'a pas senti une rébellion, à part ces 10 premières minutes de deuxième mi-temps, mais on a senti que c'était une équipe qui subissait beaucoup de choses, et d'un point de vue mental et d'un point de vue physique, y compris le rythme du match. Moi, je suis assez d'accord quand Grégory Pata dit que le stade a été silencieux, parce qu'on n'a pas senti une équipe, à part ces dix premières minutes de deuxième mi-temps, qui a été capable de permettre au public, et on sait son importance à Bayonne, de jouer son rôle de 16e homme. Donc moi, je les ai trouvés en difficulté sur ce point-là. Et après...
Mais Perpi et Castres ne sont pas l'UBB non plus.
Perpi et Castres ne sont pas l'UBB, mais c'est là où je voulais en venir. Il faudra aller jouer le Racing qui a des objectifs et qui a une obligation de victoire par rapport à son objectif de Coupe d'Europe. Mais attention à l'USAP. Parce que c'est là où, sur la dimension mentale, parce que l'USAP, ok, ce n'est pas l'UBB, mais je crois que sur les 12 derniers matchs, c'est le leader de top 14. Donc attention à ce match. Et puis le fait d'avoir gagné Montpellier leur permet d'aller chercher, d'être à la lutte pour les six premières places. Et dans leur calendrier également, pour être dans les 6, ça passera par une victoire à Bayonne. Donc,
oui, après Roger, si tu les perds tous, oui, tu risques d'être dans la merde.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que sur les 4 matchs, tes deux prochains, c'est ce que je te disais, la dimension mentale, si tu perds les deux prochains, tu vas certes à Oyo qui a rien à jouer, mais c'est pas la même. La pression, l'exigence de résultat. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux en gagner avant quand même.
C'est quelle équipe
Je m'en voudrais de pas le dire, mais on l'a vu aussi samedi. Si tu avais gagné au Stade Français, c'est-à-dire ce qui aurait dû être le cas sans une erreur flagrante d'arbitrage, tu ne joues pas le match aussi avec la même pression contre l'UBB. Donc oui.
Tu crois que tu aurais pu vraiment rivaliser face à cette équipe de l'UBB?
En tout cas, tu as beaucoup moins de pression sur le match si tu as 4 points de plus avant de le jouer, ça c'est sûr et certain.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Roger se coupe à la tête.
Oui. Non,
dis-moi que le match. Moi dans ma tête, de toute façon, il y a 3 points de plus au classement, donc c'est pour ça que j'ai pas.
Non, il est dans le déni complet.
Non, parce que cette défaite qui est frustrante, effectivement, au Stade Français, elle aurait dû être une force. Et aujourd'hui, et dès l'entame, t'as pas senti cette envie de rébellion, t'as été pris partout.
Et même dans le public.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé samedi à Jean Daugé?
Ça, je vais le dire 45 fois s'il faut le dire 45 fois. Ce qui s'est passé à Jean Daugé, c'est ce qui se passe dans tous les terrains de rugby de France. Si on fait une comparaison, au foot, ça chante de la 0 à la 90e et ça siffle ses joueurs si jamais tu prends une tôle à la maison. Au rugby, le supporterisme de rugby marche beaucoup avec ce qui se passe sur le terrain, mais c'est pas propre à Bayonne. Il y a aucun terrain, même à l'USAP, quand ils prenaient des branlées à domicile, t'entends pas un bruit, en fait. C'est propre à ça. Il y a pas de, comme au foot, de capot, de mecs avec des haut-parleurs, d'au match qui rate même pas le match. Il y a pas ça.
Et c'est pas une critique, hein. Mais c'est comme ça. Mais c'est et Bayonne n'échappe pas à la règle.
C'est comme ça. Alors quelque part, comme t'es invaincu depuis deux ans à domicile, on est habitué quelque part à avoir toujours cette ambiance.
Non, mais il y a eu quelque chose. Il y a l'essai d'entrée qui fait très mal.
Mais pas que, parce que moi je trouve que stratégiquement, par rapport à ça, c'est un élément à prendre en compte quand tu viens jouer à Bayonne. Et je trouve que stratégiquement, l'UBB a été très forte par rapport à ça. À l'image, ça a agacé tout le stade.
Oui.
À l'image des marques qu'a fait Mathieu Jalibert, mais il a permis au chrono de dérouler, oui, au match de ne pas s'emballer, au public de ne pas s'emballer, et stratégiquement, même sur ça, ils ont été très forts.
Ouais, même sur la stratégie, tu crois qu'ils ont joué la stratégie de dire on va éteindre Jean Daugé, tu crois?
J'en suis persuadé.
Oh, mais moi, j'en suis... Eh ben, après, il semblerait que le manager à la tête de l'UBB connaisse un peu ce stade. Il savait très bien l'importance, de toute façon, on l'a vu, ils ont tout tenté, je l'ai dit mardi, jusqu'à taper un drop alors que tu as 18 points d'avance ou 21 points d'avance. Donc oui, ils ont éteint le stade d'entrée de match, ils ont été très pragmatiques. Ce qui n'était pas forcément le cas de tous les matchs de l'UBB jusque-là. Ils n'ont pas été aussi spectaculaires qu'ils ont pu l'être sur certaines victoires. Mais je les ai trouvés très pragmatiques, et ce qui fait que ça a été un terrain.
Oui,
mais ce n'est pas propre à Bayonne, quoi. C'est juste ça que je veux dire.
Et quelque part, là où ils ont été très forts mentalement, c'est que beaucoup d'équipes auraient cédé sur l'enchaînement des deux essais et comment Bayonne revient dans le match en début de deuxième mi-temps. Et ils ont continué à être très froids et à rester dans leur stratégie.
Oui, ils continuent de faire des stories avec Maxime Lucu. Et nous fait pas chier.
Ils ont été très bons.
Nous fait pas chier.
Dites-moi,
le petit prince de Daugé.
Finalement, quand on regarde un peu ce qu'il nous reste, la Bayonne, Montpellier, Lyon, Clermont, laquelle des équipes vous fait le plus peur finalement entre Montpellier, Lyon et Clermont? S'il y en a une qui devait vous faire un petit peu plus peur qu'une autre?
Non, aucune, parce que si on regarde à l'instant T, Clermont vient de foutre une tôle, mais est-ce qu'ils ont été régulés toute la saison? Lyon ne sait pas se déplacer, donc fera sans doute le plein à domicile, mais ne saura toujours pas se déplacer. Et c'est pour ça que je dis qu'avec deux victoires à domicile, logiquement, tu devrais t'en sortir. Montpellier, pour moi, est vraiment dans le dur, et il va un peu tout droit.
En klaxonnant même.
Quoi?
En klaxonnant.
Ouais, en klaxonnant, et du coup, je suis pas... je vais peut-être regretter ça dans quelques semaines. Je suis pas si inquiet que ça par rapport à ça, parce que je vois pas Montpellier gagner 3 de ces 4 matchs et nous en gagner qu'un.
En tout cas, on l'aurait été beaucoup plus pour l'aviron si Montpellier avait gagné ce week-end.
Oui, c'est ça.
Et Roger?
Non, moi, pour moi, c'est Montpellier qui est le plus en difficulté au vu de son calendrier. Et puis, il y a eu une dynamique positive qui a été enclenchée suite à l'arrivée du nouveau staff. Mais en fait, là, on voit que le mal est beaucoup plus profond, parce que on constate les mêmes difficultés dans le jeu qu'il y a pu avoir avec le staff précédent. Et donc, et on a l'impression même qu'il y a un côté un peu résigné chez Montpellier qui, je pense, va travailler sur ce barrage.
Et il y a une donnée supplémentaire, c'est que Lyon et Montpellier et clairement n'était sans doute pas programmé pour jouer ce maintien-là, tandis que Bayonne dans le groupe, a toujours été le maintien, donc ça a aussi son importance. Et c'est peut-être pour ça que Montpellier d'ailleurs n'y arrive pas, c'est qu'il faut être, on l'a dit pour le BO toute la saison, il faut être conscient en fait que t'es dans le rouge, que t'es pas bien. Et bon, Montpellier, vu le CV des mecs aussi, ils se disent, écoute, on descend, qu'est-ce qu'on a à foutre, on va envoyer notre CV ailleurs, on ira ailleurs. Donc il y a cette urgence-là aussi qui fait que eux ne la voient peut-être pas.
Moi, quelque part, c'est Lyon qui m'inquiète le moins. Et clairement, quel va être l'impact aussi de la Coupe d'Europe? Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils la jouent à fond, on en parlera après.
Oui, bien sûr. Ouais.
Parce que ça leur permettra d'aller chercher une place pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, et on a l'impression que ça, c'est vraiment important pour le club. Donc là aussi, tu peux y laisser de l'énergie, tu peux y laisser beaucoup de choses, donc attention quand même.
Ouais, après, bon, il y a cette semaine de repos là en
si
plus.
Si jamais ils se qualifient en finale, je peux te dire que si une semaine à la finale, ils sont toujours dans le même cas, c'est-à-dire à jouer le maintien, je pense qu'ils ne mettront pas le club en danger non plus quand même. Est-ce qu'on peut jouer une Coupe d'Europe en étant en Pro D2?
Ah, non, bonne question. Bonne question. Bon, on verra ça. Allez, Yann Blanchard, Roger Aguerre avec nous ce soir dans 100% rugby jusqu'à 19h. Dans un instant, on va se pencher sur l'association, sur les espoirs de l'aviron bayonnais. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et puisqu'on parle de l'aviron bayonnais, on va se pencher un petit peu sur l'association de l'aviron avec son président avec nous ce soir, Manèche Mézinck. Bonsoir Manèche.
Bonsoir à tout le monde.
Et merci d'être venu nous voir ce soir.
Et c'est toujours avec grand plaisir.
Ah ça je le sais, vous aimez bien venir nous voir et ça nous fait plaisir de vous recevoir. En tout cas, les espoirs qui ont également engagé le sprint final. Alors ils ont perdu le week-end dernier face au Racing 92-26-18. Aujourd'hui vous êtes 7e du tableau, un point devant Agen. Aurillac et Angoulême, les 9 et 10e sont loin derrière, hein, puisque vous avez 20 points d'avance sur les Cantalous et 33 sur les Charentais qui n'ont pas gagné un seul match de l'année, hein, qui ont 0 point au classement. classement. Saison plus que compliquée pour Soyaux. Bon, une pensée quand même pour les gars qui s'y filent tous les week-ends, parce que prendre des valises sur valises, c'est jamais très drôle. Manège, en tout cas, si on regarde vers le haut, on se rend compte que là aussi, le classement est très serré, puisque vous avez juste 2 points de retard sur Brive, 5e, 10 sur le 4e, le Racing 92. Alors bon, c'est vrai que la 4e place serait peut-être un petit peu compliquée à aller chercher, mais l'objectif, là, c'est quoi? C'est d'essayer d'aller prendre au moins la 5e?
C'est un championnat un petit peu particulier, parce qu'il n'y a que 2 qualifiés. Voilà, il y a 2 poules, il y a des demi-finales directes, ils ont changé complètement ce championnat qui ressemble pas grand-chose, il va rien dire, parce que ils ont même eu une coupure d'un mois et demi entre une période et une autre, plus les jeunes qui vont avec les pros, plus certains qui sont blessés, plus c'est qui fait qu'à chaque fois c'est un peu un casse-tête pour monter une équipe qui tienne la route. On a le potentiel, on a les joueurs, mais on les a pas toujours disponibles. Voilà. Donc l'objectif c'est de finir un peu comme l'année dernière, on avait fini 4e. Puisqu'on avait joué un quart de finale contre l'UBB. Cette année, il n'y a que 2 qualifiés, donc l'objectif, c'est de finir 4e. Il nous reste 3 matchs qui sont jouables, donc on va aller essayer d'aller chercher cette 4e place pour au moins confirmer l'année passée.
C'est dû à quoi, ce championnat un peu particulier cette année? C'est la Coupe du Monde, destination?
Non, pas du tout, c'est la Fédé qui décide, et malheureusement, on a eu des réunions cette année pour parler un petit peu de ça. Ils refont la même chose l'année prochaine. On reste dans l'élite, c'est déjà une bonne chose. Mmh. Et on va essayer d'étoffer un petit peu cette équipe aussi, puisqu'on est en train de recruter et de faire monter les jeunes aussi qu'on a dans le cheptel, je dirais.
Yann, il te plaît pas ce championnat non plus, toi, ou...
Non, il y a des pauses assez incompréhensibles de championnat pour les jeunes. Je trouve pas ça vraiment vraiment bien. Ces jeunes ont besoin de jouer, ils ont besoin d'enchaîner. Quand tu coupes pendant un mois et demi, c'est long.
La même chose sur la catégorie Krabos.
Ouais. Même si ceux qui sont en convention notamment s'entraînent énormément. Il y a pas de souci, mais rien ne remplace les matchs, surtout à ce stade-là. Rien ne remplace même pour un club pro. Une assoce d'un club pro. Rien ne remplace des phases finales. Donc faire que 2 sorties de chaque côté, ça enlève un peu de suspense.
C'est-à-dire, si on regarde les 2 poules existantes, les 2 équipes se détachent déjà, donc dans les 2 poules. Donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Oui. Et nous, les jeunes, ils jouent parce qu'ils ont l'amour du maillot, qu'ils ont envie justement d'aller chercher cette 4e place. Mais c'est vrai que l'intérêt l'année dernière, c'est d'aller chercher la 4e. On avait été la chercher et on avait récupéré justement des joueurs en fin de saison. Et c'était toujours un plaisir justement de prendre le bus pour aller jouer en quart de finale. Voilà, c'est déjà aussi leur mettre un pied de plus dans le professionnalisme. Et là, je trouve que la Fédé fait une erreur. Voilà, il va falloir qu'ils réfléchissent là-dessus et qu'il y ait des changements dans les années à venir. Bon, l'année prochaine, ça sera le même championnat, mais on sera plus fort l'année prochaine.
Parce qu'on le voit dans les autres aussi catégories, en fédéral, etc. Enfin, il y a des phases finales comme ça. Il n'y a pas que forcément les 2 premiers qui jouent les phases finales. C'est dommage.
Oui, c'est dommage. C'est un peu mon leitmotiv. On est d'accord avec Roger. Cette catégorie espoir, est certes intéressante. Pas assez à mon goût, mais ce qui compte au final, c'est, même si ça fabrique des souvenirs, c'est pas le bout du bois, c'est combien tu vas arriver à faire monter de joueurs en pro. C'est vrai qu'à Bayonne, c'était une saison Coupe du Monde, on n'est pas trop habitué, on avait beaucoup d'internationaux en début de saison, donc beaucoup de jeunes ont fait la prépa avec les pros. Certaines d'ailleurs se sont pétées du coup pendant cette prépa. Je pense au petit Yanis Briand, qui a pas joué beaucoup cette saison parce que
qui vient de reprendre,
j'ai vu, il était remplaçant, qui t'accumule aussi de la fatigue parce que t'es pas habitué à valer.
Ouais, et puis en plus c'est des joueurs qui sont internationaux, qui ont eu du travail à côté, qui ont fait des tournois, qui ont fait pas mal de choses. On a un international espagnol qui va faire la Coupe du Monde prochainement, Manesh Ariceta. On a des Géorgiens, et il faut jongler un petit peu avec tout ça, quoi. Et on se rend compte que si on préserve pas aussi ces gamins, parce que ça reste encore des adultes gamins, ils sont à la dernière marche pour passer cette marche professionnalise. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nous, on a mis en place une espèce de protection du joueur qu'on nous avait demandé aussi les dernières années, et on préfère sur cette équipe-là effectivement leur donner un petit peu de repos de temps en temps plutôt que de les mettre dans les équipes pour aller gagner des matchs. Et voilà, malheureusement on en a perdu un petit peu à cause de ça, mais ça fait partie du jeu dans cette équipe espoir.
Et ce qu'il faut voir, c'est que voilà, si on prend cette catégorie espoir, bon, si on met déjà ceux qui jouent en pro, il y en a certains qui jouent déjà en pro. Il y a eu Manesh Ariceta qui a fait un match de Coupe d'Europe, un match de championnat, donc c'est une fierté. Esteban Capila qui risque, je lui souhaite, de faire les JO à 7. Le petit Chad Mousquet qui a fait le tournoi à destination avec l'équipe de France. Le petit Cléo Labarde qui malheureusement s'en va, mais qu'on a été chercher à Saint-Médard et qui, au bout de même pas un an, se retrouve en sélection U20. Il y a l'international espagnol dont j'ai perdu le...
Manesh Ariceta, oui. Et il y en a un autre, oui.
J'ai vu qu'il y avait aussi des sélectionneurs universitaires. Je pense à Max Bru, Castillon. Castillon.
Qui joue contre l'Angleterre le prochain match. Je crois que c'est ce week-end.
Donc pour moi, ça restera. C'est une réussite malgré le fait que tu ne vas pas faire de phase finale.
Mais de toute façon, la catégorie espoir, il ne faut pas se mentir. La politique fédérale, ce n'est pas la compétition et même la politique des clubs, quelque part. Parce que ce qui est important pour les clubs, c'est tout ce que tu viens de dire.
Oui.
C'est-à-dire que sur quoi sont évalués les centres de formation auxquels sont rattachés les équipes espoirs, c'est sur le nombre de feuilles de matchs pro, les sélections. Donc quelque part, l'objectif de pour ces joueurs qui sont au centre de formation et qui ont l'âge de jouer en espoir, c'est pas l'équipe espoir. C'est aussi là où il y a une forme d'hypocrisie autour de ça, sans parler de la politique fédérale où ce qui est intéressant pour la politique fédérale, c'est d'être champion du monde moins de 1. Donc ils peuvent. C'est vrai que c'est frustrant parce que voilà, il y a la magie des phases finales et je trouve que c'est bien que les jeunes soient confrontés à ce qu'est un match couperet, à ce qu'est les phases finales, parce que ça contribue à la formation du joueur. Mais pour autant, la Fédération française de rugby, elle a ses résultats et sa méthode qui plaide pour elle, puisqu'on enchaîne les titres de champion du monde moins de 20.
Oui, il n'y a que 40 joueurs, peut-être dans un groupe, tu vois, de.
C'est la quantité, c'est qu'il faut vraiment les préserver. Et ce championnat est vraiment bizarre, quoi. Voilà. Il y a ces deux poules et on n'en sort pas. Et chaque année, bon, il y en a qui montent, il y a une équipe qui descend et une équipe qui monte, c'est un peu particulier.
Et il faut se dire qu'il est bien plus intéressant, ce championnat espoir, que quand on voit le championnat espoir accession ou autre que jouent d'autres clubs. Enfin, je veux dire,
c'est
compliqué quand même.
Je mets juste un gros bémol supplémentaire sur la politique fédérale, puisqu'on parlait des moins de 20. On s'est retrouvé à un tournoi destination cette année où les quatre premiers matchs, on a vu des joueurs jouer ces quatre premiers matchs, des jeunes, notamment Sean Mousquet, etc. Et pour le cinquième, vu qu'il n'y avait pas de top 14, on a été rechercher tous les Avengers qui jouent déjà en top 14. Donc ils sont confirmés, on s'en fout, on n'a pas besoin de les voir jouer ces matchs-là destination. On sait qu'ils ont le niveau puisqu'ils jouent déjà en top 14. Laissons les autres jeunes qui ont joué les quatre premiers matchs jusqu'au bout, c'est pareil. On s'en fout de ne pas gagner le destination moins de 20. C'est pas grave. Le but, c'est même pas d'être champion du monde moins de 20, c'est que ces mecs-là un jour
puissent monter. Ouais.
Puissent monter, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que cette année, moi, franchement, le dernier match du tournoi destination moins de 20, je l'ai même pas regardé parce qu'il m'intéressait pas. Moi, voir Atisogbe, Tuilagi qui venait d'être relâché par l'équipe 1 jouer en moins de 20, ça n'a aucun intérêt. C'est d'une débilité si ce n'est de dire, regardez, on a gagné un bout de bois. Ouais, c'est bien. Sauf que t'as joué face à des mecs qui avaient 2 ans de moins que toi et eux peut-être qu'ils progresseront plus vite que toi.
Et ramèneront une coupe à la maison.
Ouais. Et non, on continue là-dessus.
Je vous accorde 5 minutes de plus.
Bon,
on va parler des autres équipes quand même.
On fait une petite pause alors, Manège, vous restez avec nous.
Allez, avec plaisir.
Ça, c'est parfait. Allez, vous ne bougez pas, en tout cas, avec Yann Blanchard, Roger Aguerre et Manège Mézinck, donc ce soir dans 100% rugby, qui revient dans un instant.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Avec Yann Blanchard, Roger Aguerre, comme tous les jeudis sur France Bleu Pays Basque, et Manège Mézinck, finalement, se sent bien avec nous. Il a décidé de rester quelques minutes de plus. Voilà. Il nous a accordé quelques minutes de plus. On devait libérer à 18h30. Il m'a dit, non, mais finalement, je suis bien. On a parlé que des espoirs. On va continuer sur les autres équipes, quand même, de l'association de l'aviron bayonnais. Il y a également, forcément, les Crabos et les Cadets également. Yann aussi, ça te tient à cœur, ces Crabos et ces deuxièmes années. Hein. Tu les connais par cœur, en tout cas, aussi.
Ouais, enfin bon, j'aime bien le samedi après-midi quand il n'y a pas de match des pros à aller voir jouer. C'est vrai que notamment les cadets, parce que coaché par Bruno Campos, Belasquin et Jean Moribaud. Donc du coup, je chambrais un peu Jean. Il m'a dit, viens voir mes petits, tu vas voir, tu vas te régaler. Et c'est vrai que j'étais les voir jouer 3 ou 4 fois, je me suis régalé. Je laissais Manèche en parler, mais bon, ils sont invaincus. Enfin voilà, les stats parlent pour eux.
Ouais, grosse génération là, qui arrive derrière, qui pousse.
On a une très belle génération, ils sont invaincus, il faudrait pas qu'ils prennent trop la grosse tête, mais mais c'est vrai que là, ne serait-ce que le week-end dernier, ils ont mis 50 points à Pau. Ils sont invaincus dans cette deuxième phase du championnat. On ne sait pas où ils vont s'arrêter. Je peux vous dire que les parents déjà avaient prévu d'acheter les billets pour la finale parce que jusqu'à cette année, la finale des Alamerceries s'est enlevée des rideaux du top 14. Banque de Pau cette année, la finale est à Marseille. Il y a un concert 2 jours avant dans le Vélodrome et donc les cadets ne joueront pas enlevés des rideaux du top 14, malheureusement. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'arrêter. On va aller chercher ce bout de bois parce que celui-là, on le vise. Et je pense qu'on va pas être loin cette année.
Ça sera où la finale, du coup?
On
sait pas encore.
On attend.
Ça sera pas Marseille.
Non, on sait pas. On sait pas. Ça dépendra de l'autre équipe.
Ça dépend de contre qui tu joues.
Et parce que, justement, la Fédé fait très attention maintenant sur les déplacements. Même dans les deuxièmes phases, ils ont regroupé certaines équipes pour pas qu'il y ait trop de déplacements au niveau du coût. Parce que c'est vrai que c'est le gros point noir actuellement de toutes les équipes. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. On a trois victoires, il nous reste trois matchs. On est pratiquement sûr de sortir déjà. Et après on verra ce qu'il arrivera. Après les autres équipes c'est pareil. Goderman il joue un challenge. Ils sont sûrs de finir troisième et donc de jouer le huitième de finale à venir. Donc là on reçoit le dernier match Brive. Ça sera samedi à 14h30 à la Floride. Et après on a l'équipe Krabos qui est un peu une équipe qui se cherche depuis le début de saison, qui fait de très bons matchs et puis qui est pas capable de passer à côté complètement. Actuellement, on est dans la deuxième phase aussi. On a gagné un match sur trois. On s'est déplacé deux fois. Il nous reste trois matchs, dont deux à la maison. On peut encore sortir, voilà, et aller chercher ce huitième de finale. On ne sait jamais avec cette équipe. Je pense qu'il y a un bon groupe et c'est aussi beaucoup de mental, même à ce niveau-là. Vous voyez, c'est.
Ouais, on peut presque espérer que toutes les équipes se qualifient au moins pour.
Déjà, on a passé toutes les premières étapes et on est dans l'élite pour toutes les équipes. Même chez les petits, on commence les super challenges. On a des super résultats chez les petits en 10 ans, 12 ans. Ils m'ont ramené encore des boucliers. Je ne sais pas quoi en faire. On va être obligé d'agrandir peut-être la vitrine parce que.
Ouais, problème de riche.
Non, mais franchement, on a des générations et puis on a beaucoup de demandes et malheureusement, on peut pas accepter tout le monde parce que on est limité aussi au niveau des encadrants et autres, donc c'est toujours un problème. Mais voilà, on commence petit, on commence à 3 ans environ. Hein, donc,
Ah oui.
Il y a la Baby Academy qui commence à bien marcher, on avait à peu près 80 gamins, donc ça bouge pas mal. Ouais.
Je pensais pas qu'on pouvait commencer à 3 ans.
C'est ludique, hein, fait des petits sauts. On a des petits ballons, oui, on joue. Et même l'idée que j'ai soumise, c'est de l'année prochaine d'impliquer un peu les parents pour qu'ils viennent jouer avec leurs enfants. Parce que c'est ça aussi, ça fait sympa, partie de la famille. Et on veut garder cet esprit de famille dans notre asso. C'est un peu ça aussi, notre force. Hein.
On pourra ramener un bout de bois aussi, peut-être, avec les 3 ans.
Je sais pas s'il y en a encore, mais bon, on verra. Ce qui nous manque, c'est drôle parce qu'autrefois, on avait des piliers basques et compagnie, mais dans toutes les générations, on se rend compte qu'on manque de piliers. Et au Pays Basque, on forme de moins en moins de piliers. Donc, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Bon, voilà, c'est comme ça. On va essayer de faire basculer un petit peu cette courbe et demander aux clubs locaux, sans aller trop de leur en prendre non plus, parce qu'on travaille avec eux maintenant de plus en plus. On travaille en bonne intelligence. Voilà, on essaye pas de dire c'est l'aviron bâillonné, on a vous venez chez nous. Non, on travaille comme il faut.
Ouais, à noter que il y a des passerelles qu'on avait peut-être jusque-là loupées, notamment entre les pros et les jeunes. Donc là, j'ai cité Jean Moribaud en cadet. Il y a aussi l'importance, parce que ça lui tient à cœur et il adore ça, Quentin Béthune, pilier de l'effectif professionnel qui s'occupe de la
mairie. Désespoir déjà.
Désespoir, et il se régale et il se voit faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, former mieux pour les mettre en sécurité, voilà, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un déficit sur les premières lignes maintenant.
Et on a eu une très grosse progression au niveau des espoirs, puisque le dernier match, on a gagné les mêlées sans aucun problème. Ça veut dire que les gamins ont besoin d'apprendre cette technique. Et c'est là aussi, on se rend compte que du passage de Krabos en espoir, les gamins ne sont pas encore prêts. Voilà, et on veut les préparer plus tôt.
Merci beaucoup, en tout cas, Manège Mézing, d'être venu jusqu'à nous ce soir.
Avec grand plaisir, et vous pouvez m'appeler, je serai là.
Il n'y a pas de souci.
Il va revenir avec le bout de bois.
Hein, bien sûr. Voilà, je viendrai avec le bout de bois avec l'équipe des Alamerceries, c'est sûr.
On aime les recevoir, les bouts de bois, ici.
Non, on les amènera, par contre, ils sont capables. Non, ils sont jeunes, mais ils ne vont pas vous casser le
Non, j'aimerais autant.
On n'est pas grand balleur. Quand même,
mais... Ils sont tout neufs, vous voyez, c'est dommage que...
Non, ils sont très jolis, c'est vrai. Je ne connaissais pas celui-là, mais il est chouette.
Merci beaucoup, en tout cas, Manège Mézing, que vous ne bougez pas. Les infos du jour arrivent avec Anne Blanchard et Roger Aguerre.
100% rugby, les infos du jour.
Allez, rapidement, en Pro D2, Dax qui a prolongé son arrière-ouvreur Hugo Cerisier, le joueur polyvalent est l'un des joueurs clés, c'est vrai, hein, du succès de Dax cette saison. Il fallait le verrouiller et c'est donc fait, puisque le joueur de 25 ans a signé avec le club d'Aqua jusqu'en 2027. Il est arrivé très jeune d'ailleurs à Dax, arrivé il y a 8 ans de Périgueux. Il avait participé à la montée en Pro D2 l'an dernier. C'est un joueur qui prend de l'ampleur et du galon dans cet effectif landais, Yann.
Ouais, j'aime beaucoup. Il a même mis ma petite pépite un peu sur le banc, là, Romuald Segui, qui est un excellent 10 aussi de Pro D2, et bon, pour les avoir vus aussi à la Foire au Jambon, on sent que cette équipe de Dax aussi, c'est une belle bande de copains. Il va falloir garder ça, parce qu'il y a l'euphorie de cette année, c'est génial, et je pense qu'ils iront en phase finale. J'ai presque pas de doute là-dessus, vu leur calendrier. Attention à la deuxième année en Pro D2, parce que justement, ils vont être attendus, et ça sera plus la jolie petite histoire de cette Pro D2.
C'est l'effet de surprise, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, la deuxième année va être
plus compliqué, je pense.
Ouais. Moi, c'était un joueur que je connaissais pas, mais que j'aime beaucoup. Ouais. À l'image du match qu'il a fait contre le Stade Montois, où dans des conditions difficiles, il a été très propre, très bon dans la stratégie. Et puis, je trouve que il a une gueule, il a une façon d'être et qui incarne parfaitement l'esprit d'Aqua qui transpire cette année.
Voilà, pour cette première info du jour. Oyonnax, qui se renforce aussi pour la saison prochaine, vient d'engager pour deux saisons le talonneur fidjien du Racing 92, Peñami Narissia, l'ancien briviste, arrivé en terre francienne en 2022, en manque de temps de jeu, titularisé 5 fois cette saison pour 7 feuilles de match au total. Bonne pioche pour Oyo, est-ce que vous montrez qu'il fallait aussi que le joueur se relance?
Très très bonne pioche, non j'en sais rien, je ne le connais pas ce joueur. Ah. mais en tout cas, pour le reste de recrutement d'Oyo l'année prochaine, je ne sais pas s'ils ont des clauses ou pas, tous ces joueurs-là. Mais ils sont en train de construire une très très jolie équipe. Et si jamais ils n'ont pas de clause, ça prouve que Oyo voudra remonter directement et que la Pro D2 va continuer d'être super intéressante vu les équipes qui vont rester à quai aussi en Pro D2 cette année. Il y aura une voire deux montées. Mais Oyo travaille bien pour la saison prochaine.
Oui, c'est dans la continuité de Zach Holmes, de tous ces joueurs qui
Manu
sont déjà exactement qui sont déjà rodés au top 14. Et donc, quel que soit le niveau où sera Oyo l'année prochaine, on sent déjà qu'il y a une ambition. Qu'on vient de le dire, Yann, de remonter immédiatement parce qu'ils sont en train de construire un effectif de qualité.
Oui, en plus, je dois dire des bêtises parce qu'il ne doit pas y avoir de clause parce qu'ils sont derniers depuis un bon moment. Donc, si les joueurs sont engagés, c'est qu'il n'y a pas de clause.
Allez, on va jouer à qui peut battre. Vous allez jouer avec Yann Blanchard ou avec Roger Aguerre pour tenter de gagner votre ballon France Bleu Pays Basque. 05 59 59 17 17. 05 59 59 17 17. Venez un petit peu d'affronter Yann ou affronter Roger. C'est vous qui choisirez. À tout de suite. Roger Aguerre, Yann Blanchard dans ce 100% rugby jusqu'à 19h. Les deux qui vont s'affronter pour un ballon de rugby France Bleu Pays Basque. Je sens que ça va se chamailler pour pouvoir gagner ce joli ballon.
Non, parce que Yann, je suis trop fatigué pour gagner. Je fais un 2 sur 2 cette semaine déjà.
Ouais, et puis Yann, il me dit comment tout le monde gagne des ballons et moi j'en ai pas et blablabli et blablabla. Yann, tu as l'occasion de gagner ton ballon ce soir.
D'accord.
Vous êtes prêts?
Ouais.
La première question, Roger Aguerre est tellement concentré qu'il est sur
son téléphone. De suite.
Je pose mon téléphone.
Roger Aguerre, il est sur Tinder certainement. Hein, c'est bien le moment.
C'est sympa pour ceux qui écoutent.
Oh, il n'a pas entendu.
Si, j'ai entendu, mais c'est...
Il y a ta femme qui écoute quand même.
Bien, j'espère.
Avant d'affronter les Sharks en demi, quelle équipe a été éliminée en quart par l'ASM?
Le Connard.
Non. Je cherche une province irlandaise.
L'Ulster.
Effectivement.
Il ne faut pas donner de détails comme ça, c'est trop facile.
Je vais pas y rester, c'est trois jours non plus. Hein,
et toi, c'est trop facile.
Aux provinces irlandaises, je dis le Connard, il te reste Munster, Leinster, Ulster.
Mais pourquoi tu ne les as pas dit?
J'ai déjà donné une réponse.
La deuxième question. Sur les trois dernières années, le Stade Rochelet a gagné les deux dernières éditions de la Champions Cup, mais contre qui ont-ils...
Leinster.
Non, en contre-tilé, ont-ils perdu la première année en 2021?
Toulouse.
Non, la égalité. Non. Roger, sois honnête.
Bah, Toulouse, ça peut être le TFC, c'est le Stade Toulousain, s'il te plaît.
Roger, sois honnête.
Ça peut être le TUC, ça peut être le Toulouse Omnisport.
Roger, sois honnête.
Stade Toulousain.
Roger, sois honnête.
Stade Toulousain, c'est le nom du club.
Moi, j'ai
c'est pas Toulouse.
Le stade. Justement.
Le club, c'est Stade Toulousain.
Voilà. Allez, la question 3 pour vous départager. On espère que l'avion bayonnais, bien sûr, va éviter l'accès match et se maintenir au plus vite, évidemment, top 14. L'an dernier, l'USAP a joué et gagné l'accès match. C'était face à qui?
Mont-de-Marsan.
Ni l'un ni l'autre. C'était ni Oyo, ni...
Vannes.
Donc, Grenoble.
Oui.
Merde. Un partout. T'en as une autre?
Non,
Roger, tu peux pas. Non, Roger.
Mais la réponse, c'est pas Toulouse, c'est le Stade Toulousain.
Non, Roger, ça, c'est pas bien.
Tu l'as dit avant.
Non, là, c'est pas bien.
Bon, allez, ça c'est fait.
Non, c'est pas bien du tout.
Une fois, Yann Blanchard.
Non, c'est pas bien du tout ce que tu fais là. Tu le sais au fond de toi-même.
C'est gagné. Moi, j'aime la gagne.
Ça s'est vu en barrage.
Peu importe, j'aime la gagne.
Bon, allez, on passe à la suite.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Roger Aguerre, Yann Blanchard. Ce soir, on prend la direction du club de Cap-Breton Hossegor, pas très loin de chez nous, dans les Landes, et qui jouera bien en Fédéral 3 face à des équipes basques la saison prochaine. Une montée qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est vrai, pour une histoire de feuilles de match. Alors, pour la faire courte, Cap-Breton Hossegor a gagné la demi-finale de Régional 1 face à Mimizan, mais un joueur est entré en jeu sans être inscrit visiblement sur la feuille de match. Mimizan a donc fait une réclamation. La Ligue de Nouvelle-Aquitaine leur a donné donné donc raison, privant Cap Breton d'une finale et d'une montée automatique en Fédéral 3. Mais vendredi dernier, donc coup de théâtre, la commission d'appel a estimé que la réclamation de Limizan avait été irrégulière et qu'il fallait donc la rejeter. C'est donc le score terrain qu'il fallait respecter. C'est donc bien Cap Breton au Segor qui a pu jouer sa finale de Régional 1 le week-end dernier, une finale perdue. Mais la montée en tout cas est bien dans la poche et nous avons le plaisir d'avoir le coach de Cap Breton au Segor, Alexandre Motte, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bon, j'imagine que malgré la défaite le week-end dernier face à Pompadour, vous êtes forcément ravi de pouvoir monter en Fédéral 3 quelque part.
Oui, c'est le mot, ravi, soulagé, je sais plus quoi dire. Je souhaite à personne de passer une semaine comme on a passé. Ça a été très très dur, très très dur pour les joueurs, pour les entraîneurs. Je pense qu'on a fait rempli les rendez-vous pour les dermatologues, parce qu'on a des joueurs qui ont fait des crises d'eczéma, des boutons de fièvre, des insomnies. Je pense qu'on a rempli tous les dermatologues des Landes.
Et toi, ça va, Alex?
Oui, là, ça va mieux, moi, Roger.
T'as pas perdu trop de cheveux dans cette histoire?
C'était... Enfin, le sport, on n'a parlé que de sport. Le résultat sportif, moi, tout le reste, c'était très dur. Je pensais pas qu'on pouvait chercher la petite bête comme ça. Je ne comprenais pas, comme je vous l'avais dit jeudi dernier. Voilà, c'est du passé, on va dire.
Petite question. Un peu provocatrice exprès. Est-ce que cette finale, vous la perdez aussi parce que cette semaine a été dure pour tout le monde?
Oui, peut-être. Peut-être. À la fin, je crois qu'il n'y avait même pas de la déception. Je crois que c'était dès que le coup de sifflet final, on peut la gagner comme voilà, on la perd face à une super équipe qui était comme nous, qui a abordé le match comme nous contre Limizan. Qui gagne, il marque à la 81e, comme nous, on a marqué à la 81e contre Limizan. Mais au coup de sifflet final, bon, moi j'ai un peu râlé, Roger me connaît un peu, mais c'était du soulagement. Ouais. Je pense que tous les joueurs, c'était du soulagement. Voilà, c'était fini, on pouvait passer à autre chose.
Parce que la défaite, c'est d'un point, hein, 28-27, ouais. Pour bien préciser quand même le score.
Tout à fait.
Justement, Alex, maintenant qu'il y a eu ce contexte, ce soulagement, et que vous avez pu jouer malgré tout cette finale, quelles sont les ambitions maintenant de ton équipe pour les phases finales qui s'annoncent?
Mais maintenant, bon, dans la solidarité, on a vu qu'on l'avait. Maintenant, il faut retrouver cette détermination, la détermination qu'on avait pour monter en Fédéral 3. Et là, je te cache pas qu'on est prêt à attaquer ce championnat de France, avec en vue un huitième de finale qui pourrait être très très chaud. Mais bon, on en parlera plus tard, hein, de ça.
Le moment où vous avez donc l'appel de la Fédé pour vous dire que c'est rejeté, que vous allez jouer la finale, le moment où vous l'annoncez aux joueurs, ça vaut la joie d'un bout de bois, non?
Oui, beaucoup de larmes.
Ouais.
Parce qu'on a annoncé, on a voulu que le président l'annonce. Nous, on le savait à 17h30, 18h. On a pleuré aussi. Et le soir, on voulait que ce soit le président, les deux présidents qui se sont battus très fortement cette semaine. Qu'il annonce aux joueurs et à beaucoup de supporters qui étaient présents. Et oui, ça j'aimerais être champion quand même, hein. Mais oui. Ça valait.
Est-ce que vous avez eu des échanges avec Mimizan après cette décision?
Non, on n'a pas eu d'échange. On a bien fait comprendre que c'était pas contre les joueurs. Aucunement contre les joueurs, malgré tout ce qui se disait. On n'a pas compris, alors on sait même pas quel est ce dirigeant, puisque personne n'a pris la parole derrière. Donc voilà, on est passé maintenant, on est passé à autre chose. Peut-être qu'on les rejouera. Ça sera sûrement un match tendu, mais un beau match. Donc voilà, maintenant on parle que du sportif.
Est-ce que malgré tout, ce qui a posé problème, est-ce que le mystère a été élucidé sur ce changement dans la feuille? Parce que j'ai l'impression que c'était Bill Gates qui avait fait le coup, quoi. Parce que il y avait ces problématiques informatiques, personne ne savait d'où ça venait. Est-ce que l'enquête interne de la Fédé, ou est-ce que vous avez réussi à démontrer à quel moment ça a été changé ou pas?
On n'y est pas arrivé. On est toujours pareil, on ne comprend pas. Beaucoup de clubs nous ont envoyé un message, nous ont contacté en disant qu'ils avaient eu le même problème. Et eux, pareil, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Alors voilà, c'est l'énigme. Alors, j'espère que ça va servir aux autres feuilles de match. Que ce problème n'arrive plus, mais on ne comprend toujours pas. Et notre dirigeant, le pauvre, qui était très touché, le plus touché, et qui ne comprend pas non plus, et qui dimanche a fait la photocopiée, l'a écrit sur voilà. Il fait encore plus attention que ce qu'il faisait avant, mais il le faisait déjà très bien. Donc on peut pas mieux faire.
J'ai regardé un petit peu votre page Facebook là, ces dernières heures. Il y a eu avant donc la décision de l'appel, qui a eu beaucoup de messages de soutien qui sont arrivés sur votre page Facebook. J'imagine par plein d'autres biais. Ça touche forcément un petit peu ça aussi.
Ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup parce que je pense qu'on a une image d'une équipe, d'un club qui joue avec son cœur. Et beaucoup de clubs, même de notre poule, nous ont porté leur soutien. Donc voilà, ça touche vraiment. Ça veut dire qu'on est déjà que sur le terrain, on laisse une belle image. Et voilà, il faut continuer à donner cette belle image.
Et vous n'avez pas volé du coup votre place, surtout.
Non, on n'a pas volé notre place parce qu'on est allé la chercher. C'était pas l'objectif de début de saison, mais on est allé le chercher avec, je vous l'ai déjà dit, des joueurs qui ont un cœur gros comme ça. Et il me tarde de les revoir.
Qu'est-ce qui a fait, parce que la défaite, on l'a dit, donc 28-27, qu'est-ce qu'il a manqué peut-être à cette équipe de Cap-Breton pour faire basculer la pièce du bon côté?
Je pense que c'est le mental. Ce qu'a eu Pompadour. On aurait dit, je vous l'ai dit, on aurait dit nous, quand on joue la 80e contre Mimizan et qu'on remonte le terrain et qu'on marque, eh bien eux, ils ont eu ce mental que nous on n'avait plus. Qu'on a laissé, je pense, toute la semaine, et surtout qu'on a laissé le vendredi soir après cette annonce.
Yann Blanchard, une autre question?
Non, je te laisse entendre.
Ok. Non, mais c'est pour savoir. Non,
est-ce que moi j'ai une question? Est-ce que maintenant que cette montée est acquise, est-ce que vous êtes déjà dans une projection de la Fédérale 3 et est-ce que vous avez entamé votre recrutement et la préparation de la saison prochaine?
Alors moi, il me tarde de te retrouver déjà. Bon, j'espère te retrouver avant en rouge et blanc. Et,
ça y a des chances.
Il y a des chances. Non, pour le moment, là, on est focus sur le championnat de France.
Est-ce qu'on pense à la saison prochaine ou pas?
Non, c'est ce qui vient.
Ah, pardon, mais oui.
Non, mais après, si tu n'écoutes pas, il n'y a pas de souci.
Pour tout vous dire, je serais de calquer lui aussi la fin de l'émission, avec mon réalisateur.
Donc on pose des questions qu'il n'a pas et il n'écoute pas.
Ah ouais, non, c'est incroyable.
Ouais, bah si la question est posée, elle est posée, c'est
oui,
tout.
Oh, tu nous auras fait une fin de semaine, toi.
Une fin de semaine, en apothéose, écoutez. Ouais. C'est comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Motin.
Mais merci à vous et bonne soirée. Et Roger, à très vite.
Et à très bientôt, donc, sur France Bleu Pays Basque avec Cabo.
Et Alex, t'es là toujours?
Oui, je suis là.
Tu sais où c'est qu'il a signé, Roger, pour la saison prochaine ou pas?
Ben, j'entends des bruits, mais
il faut pas les écouter.
Je pense que peut-être je ne le jouerai pas, mais j'espère le jouer quand même à Roger. Ouais,
peut-être qu'il va monter en Fédéral 2, oui.
Mais c'est pour ça, j'ose rien dire.
Bon, on verra ça. Alexandre Motte, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Yann Blanchard, Roger Aguerre, il va nous rester moins de 2 minutes pour se pencher un peu sur la Coupe d'Europe de rugby. Non, vite fait, non,
t'as pas
envie.
Va, non.
T'as pas envie de Champions Cup, non, Toulouse face aux Sharks.
Non, ça va se passer. Face aux Harlequins.
Ouais, parce que les Sharks.
Face aux Harlequins, les Sharks, c'est Clermont. J'ai mélangé Champions Cup, Challenge Cup.
Ouais, non, moi je vois Toulouse beaucoup trop fort cette saison. Je les vois faire le doublé. Donc face aux Harlequins qui sont passés proches du coup près face à Bordeaux, puisqu'à une transformation près, ils se faisaient sortir. Je vois pas comment Toulouse pourrait chuter. Après, ça reste un match de rugby et tu peux passer à côté. Mais si Toulouse joue comme ces dernières semaines, je pense qu'il n'y aura pas photo entre ces deux équipes.
Surtout avec l'avantage du domicile.
Ouais.
Et je pense que tout le monde a très envie de voir une finale Toulouse-Leinster.
Exactement. Et Clermont qui jouera donc sa finale de Challenge Cup face aux Sharks. Ça va se jouer à Londres. Ce match, ça ne se jouera pas en Afrique du Sud. Hein. Normalement, les Sud-Africains auraient dû recevoir pour cette demi-finale. Sauf que la règle fait que non, en demi-finale, les clubs sud-africains n'ont pas le droit de recevoir chez eux. Ça aussi, je trouve cette règle absolument incroyable. Mais, bon.
Mais on est dans la débilité de ce qu'on...
C'est surtout recevoir chez soi qui m'étonnera toujours.
Oui, aussi. Mais bon, de pas pour recevoir sur sa pelouse et devoir choisir un terrain du coup en Angleterre, c'est pas la même quoi.
Est-ce qu'on est à une bizarrerie près?
Non, mais de toute façon, tout est ridicule depuis l'intégration des provinces sud-africaines dans cette Coupe d'Europe, y compris dans cette règle. Donc voilà, c'est pas du tout cohérent.
Voilà, et on aura un stade en plus aux trois quarts vide, ça va sonner creux, ça va être pas mal, ça va être sympa, une chance peut-être pour Clermont de briller face aux Sharks. Merci beaucoup Yann Blanchard.
De rien Julien.
À très bientôt.
À très bientôt, c'est une belle semaine.
Une très belle semaine, comme d'habitude Yann Blanchard, c'est un plaisir. Roger Aguerre, pareil, ravi de vous avoir eu comme chaque jeudi.
Avec plaisir.
Et à très bientôt sur France Bleu Pays Basque, 100% rugby revient lundi, demain c'est 100% sport et loisirs.
Encore.